Elle est travailleuse sociale et psychothérapeute spécialisée en intervention auprès des personnes réfugiées et demandeurs d'asile pour le réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi de la violence organisée. J'ai nommé Véronique Harvey. Bonjour Véronique, merci d'être là.
Merci.
Qu'est-ce que la violence organisée? J'en ai une petite idée, mais je voudrais pas trop présumer.
Alors la violence organisée, c'est une violence avec laquelle on peut faire un lien avec l'État, soit que l'État délibérément orchestré, organisé un acte de violence envers un individu ou un groupe, ou a échoué de protéger cet individu ou ces groupes. Donc, on parle de guerre, de génocide, on parle de torture, on parle aussi de persécution.
Oui, hein, je pense aux LGBTQ dans certains pays.
Absolument.
Okay.
On parle de femmes, des femmes qui ont vécu de l'inceste, des viols, des mariages forcés, de l'excision, et qui proviennent de pays, évidemment, où il n'y a pas de protection pour ces personnes. On parle aussi de gens qui ont été persécutés sur la base de leur identité ethnique ou leur affiliation religieuse.
C'est sûr que nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la limitation fonctionnelle, bien que toutes ces réalités-là font subir des traumatismes d'une façon ou d'une autre, mais si on parlait de la réalité des réfugiés qui arrivent avec des situations de handicap, est-ce que d'abord le Canada est assez ouvert, où on se dit « Oups, ça va être une charge supplémentaire à l'État, on va être plutôt réticent. »
Je pourrais pas répondre, c'est vraiment pas mon expertise de voir des personnes avec handicap. Moi, ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'au niveau de la santé mentale, qui est vraiment ce qu'on fait au niveau, en fait, on offre donc les services de psychothérapie gratuits. C'est qu'il y a des personnes qui sont tellement envahies par les traumatismes qu'ils ont vécu en convergence avec le parcours migratoire qui est parfois traumatisant en lui-même et qui sont déracinés de façon tellement brutale parce qu'ils fuient pour leur vie. Hein, c'est pas un choix. C'est vraiment, on parle de gens qui ont fui pour sauver leur vie. Donc, quand on converge tout ça avec les stress d'adaptation ici, ça peut faire en sorte qu'il y a certaines personnes, pas toutes les personnes réfugiées ou migrantes, mais il y a un pourcentage de ces personnes qui vont devenir paralysées, qui vont avoir de la difficulté à fonctionner, soit dans une des sphères de leur vie ou complètement. Ils n'arrivent plus à sortir de chez eux. Alors, dans ce sens-là, je pense que c'est important qu'on parle du bien-être psychologique et émotionnel des personnes qui arrivent, parce que ça peut devenir handicapant si les gens ne sont pas soutenus quand ils en ont besoin.
Ça se fait sous forme de thérapie de groupe, thérapies individuelles, un peu de tout ça, j'imagine?
C'est surtout la thérapie individuelle.
Individuelle, OK. Ont droit à combien de séances? Parce qu'il y a des traumatismes qui sont là pour la vie, là, j'imagine.
Je pense que les traumatismes dont on parle sont là pour la vie.
Oui.
Oui, ça s'oublie pas. Puis...
Alors, ils ont droit à combien de séances d'effrayés?
On est limité selon notre financement. C'est entre 20 et 30 séances, mais 30 séances, c'est dans les cas les plus sévères. Ou dans le cas des enfants, parce que les enfants, souvent les enfants qu'on voit, ils ont été témoins d'un acte de violence qui a été fait à leurs parents. Et comme ils n'ont pas encore, cognitivement parlant, leur cerveau n'est pas développé de façon à ce qu'ils puissent avoir une perspective, une vue d'ensemble où ils peuvent relativiser ce qui s'est passé. Ils vont plutôt, au contraire, se l'approprier et se dire, et pas tout à fait comprendre le pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qui est arrivé. Ils ne sont pas nécessairement capables de le mettre en mots non plus. Donc, dans le cas des enfants, on souhaite pouvoir offrir plus que 30 séances.
Ouais. Avec Véronique Harvey, qui est travailleuse sociale et psychothérapeute spécialisée en intervention auprès des réfugiés. Drôle de question peut-être, mais j'ai entendu quelques reportages où on nous expliquait que les gens sur place pouvaient parfois exagérer, sachant que c'était la façon d'obtenir des services. C'était même pas de la mauvaise volonté, c'était juste qu'à un moment donné, bon, lorsque, je sais pas moi, que ce soit Médecins sans frontières ou lorsqu'ils arrivent dans le village, si on dit telle ou telle chose, le service ou l'aide va arriver plus vite. Comment aider quelqu'un qui peut-être se sent obligé de se rendre intéressant alors qu'il n'est même pas obligé d'amplifier que déjà sa situation est tragique? Comprenez-vous ce que je veux dire?
Oui, mais je ne sais pas ce qui se passe dans les autres organismes. Encore là, c'est pas un sujet que je peux approfondir. Tout ce que je peux parler, c'est de ce qu'on voit au Riveau. Les personnes qu'on reçoit, ce sont vraiment les personnes les plus vulnérables.
Okay.
Donc, ils ont été déjà vus par des médecins, soit à la clinique des réfugiés ou au YMCA qui offre l'hébergement à ceux qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, donc ils n'ont pas de lieu où résider. Donc, ils peuvent être hébergés pour 30 jours. Ils ont été vus peut-être par un avocat en immigration ou par un intervenant dans un organisme communautaire et ils ont été identifiés comme étant extrêmement vulnérables. Donc, l'intervenant, soit le médecin, le travailleur social ou l'avocat, a une inquiétude,
ouais.
une sérieuse inquiétude concernant cette personne. Et ce sont des intervenants, des professionnels qui envoient beaucoup des personnes immigrantes. Donc, nous, ce qu'on voit au Riveau, ce sont vraiment des personnes en très grande détresse et qui ont...
J'en suis certain, mais est-ce que vous sentez parfois qu'on se sent obligé, disons, de colorer notre vécu davantage?
Bien, je pourrais pas vous dire, dans le sens où vraiment, encore là, comme les personnes qu'on voit, ce sont vraiment des personnes qui sont en situation de crise, là, qui ont des idées suicidaires, qui ont...
Ouais.
Moi, je sens pas, je ne vois pas ça dans ma pratique. Je vous dis pas que ça existe pas, mais honnêtement, je vous dirais que c'est certain qu'il y a des personnes qui sont issues, la plupart des personnes qui ont fui, là, on parle des personnes qui ont fui, on parle pas d'immigrants économiques ou autres. Ils fuient des gouvernements corrompus où dire la vérité, ça joue pas toujours en ta faveur. Et ce sont des personnes qui, parfois, peuvent avoir développé des façons de survivre en disant ce qui est attendu d'eux pour pouvoir survivre.
Et
donc,
on peut comprendre.
S'il y a de ça, oui, je peux comprendre. Mais encore là, nous, dans le cadre de la psychothérapie, on traite l'identité qui a été déconstruite, on traite l'estime de soi qui a été défaite, on traite le traumatisme, on aide des personnes à gérer les cauchemars, les flashbacks, le problème de concentration, parce qu'on veut que les gens s'intègrent, on veut que ça soit sur des bancs d'école, ou on veut tout de suite qu'ils se trouvent un emploi, mais il y a des gens qui ont de la difficulté carrément à se concentrer, à intégrer ce qu'une personne leur dit, trois phrases même à la limite, mais ça passe pas. C'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est pas culturel, c'est pas une barrière de langue, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent français. C'est que parfois, c'est le trauma qui est tellement envahissant, c'est typique au stress post-traumatique, puis on le voit chez les survivants en général.
En terminant, comment s'est passée votre soirée de jeudi dernier, le 22 novembre dernier, où il y avait soirée bénéfice?
Magnifiquement bien. Ça a été une soirée mémorable. Nous, notre objectif, c'était, oui, d'amasser des fonds, mais c'était aussi de marquer dans l'histoire nos 25 ans, au cours desquels on a offert 40 000 heures de thérapie gratuite. Puis ça a été une soirée, à ce qu'on m'a dit, les gens m'ont vraiment donné des commentaires très positifs, ils m'ont parlé de soirée magique. Ils ont été très émus aussi par les témoignages des deux survivantes qui ont partagé leur histoire, qui ont parlé de l'aide qu'ils ont reçue au Riveau. Donc, ça a été très touchant.
Je sais que c'est un petit peu secondaire, mais quand même tellement important. On avait un objectif de 25 000 $. Est-ce qu'on pense que d'ici la fin de l'année, on va pouvoir y arriver
Mais je l'espère. Ouais. Je l'espère. Et puis, les besoins pour le financement, c'est pas seulement pour cette année, c'est aussi l'an prochain. Donc, on encourage les gens à nous faire des dons à tout moment. Ça peut être maintenant. Il y a encore la possibilité de le faire en allant sur notre site Internet à Riveau, R-I-V-O. traitdunionresilience.org. Les gens peuvent faire des dons, il n'est pas trop tard et c'est toujours très apprécié.
Oui, en lisant les nouvelles, de toute façon, jour après jour, on se rend compte à quel point un organisme comme le vôtre est important. Merci beaucoup, Véronique Harvey.
Merci à vous.